Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Vivante Église, reportage aujourd'hui comme tous les mois avec Marie-Pierre Pavlak. Elle a décidé de vous parler des regroupements paroissiaux à partir de l'exemple de l'ensemble pastoral porte du Lauragais. Que deviennent nos paroisses aujourd'hui, mort annoncée ou nouveau visage? Quel est leur avenir? Elles se bougent et se réinventent pour faire face à la déchristianisation et au recul de l'Église catholique dans les territoires ruraux.
Parce que, alors, il y a le père Aymar, mais lui qui va arriver, il m'a dit dans une heure, je crois, le père Aymar.
Oui,
père
bien,
Vincent,
fini,
bon. Et le diacre, notre diacre. Allez, bon, c'est déjà ça. Après, sur Balmain, il y a Michel Petit, Louis Rouillet, Jean-François et moi, de Balmain. Après, de Fonce Grive, il y a Vincent Pratt qui ne sera pas là ce soir, Corinne qui va arriver
voilà,
aussi en retard,
un bon presbytère.
Catherine qui est malade, et donc on est 11. On est 11 à l'EAP.
On est 12
et qui est
avec
deuxième.
Moi.
Non, je vous avais compté. Je n'aurais pas osé oublier le prêtre.
Ben, j'espère.
C'est même le premier que j'ai cité.
Non, donc il y a trois ministres ordonnés.
Ah, et Aline. C'est Aline que j'ai oublié.
Ah, ben, j'ai du propre.
Voilà. Donc, de qui est de Flourens. Donc, on est 12. C'est très bien.
Tenez. Comme...
Un peu plus de 19h, un mercredi soir à Balma. Venus de Quinte-Fonce-Grive, de Trémil-Lafage, de Flourens-Montrabé et de Balma, les membres de l'EAP de la jeune unité pastorale Porte du Lauragais se retrouvent au presbytère pour l'une de leurs rencontres habituelles de travail. Mais ce soir-là, tout commence par un temps convivial. Marie-Jo, Louis, Jean-François, Michel, Catherine, Vincent, Corinne, Aline et Constance représentent les communautés dont ils sont issus et dont ils sont les porte-parole. Réunis au sein d'une même et seule structure, ils sont appelés à servir l'ensemble paroissial Porte du Lauragais, un vaste ensemble qui s'étend désormais de Balma à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, de Quinte-Fonce-Grive à Beaupuis, de Montrabé à Saint-Anatoly. Je vous propose donc aujourd'hui, à la faveur de ce reportage, d'aborder un sujet d'actualité d'importance pour la vie de l'Église, celui des regroupements paroissiaux. Que deviennent les paroisses? Mort annoncée ou nouveau visage? Quel est leur avenir? Des réalités qui bougent, qui se réinventent? Pour trouver ou tenter de trouver des réponses à ces questions, au cours de ces dernières semaines, je posais mon micro dans l'une ou l'autre de ces paroisses, regroupées sous le vocable « Porte du Lauragais ». Une nouvelle paroisse, un ensemble pastoral, précision avec le père Vincent Gallois, curé de ce nouvel et vaste ensemble.
Alors, ce n'est pas la paroisse « Porte du Lauragais ». Ce sont canoniquement quatre ensembles paroissiaux, mais voilà, il y a une unité pastorale, une unité de conduite pastorale, qui les place sous ce sous-vocable de paroisse Porte du Lauragais. Voilà. Mais il y a quatre ensembles paroissiaux au départ, qui sont Balma, Quinte-Fonce-Grive, Drémil-Lafage et Flourens-Montrabé. Et ce que l'archevêque Mgr Legal m'avait nommé, il m'avait dit de travailler à l'harmonisation et à l'unification de cet ensemble paroissial. Et donc, voilà, pour parler de cette unité, plus une unité pastorale, une unité de projet pastoral. Voilà, on a consulté les paroissiens, on a fait une grande consultation, on a eu plusieurs centaines de réponses, et ils ont choisi d'appeler cet ensemble nouveau, mais qui n'est pas canoniquement établi, cet ensemble nouveau, paroisse Porte du Lauragais. Voilà.
Ça a du sens, ça. La porte.
Pour pas surinterpréter.
Ah, mais ça me plaisait bien.
Les paroissiens m'ont dit « Porte du Lauragais ». Oui, mais c'est au centre commercial Auchan. Il y a une Porte du Lauragais, Porte du Comminges. Voilà. Bon, c'est Porte du Lauragais parce que c'est certain que nous sommes à l'entrée de cette zone qui est le Lauragais. Et porte au singulier parce que l'idée, c'est d'avoir une unité. Voilà. Et si sur le site internet c'est paroisse au pluriel, c'est pour rappeler aussi qu'il y a plusieurs lieux, il y a 17 églises, 17 lieux de culte, les 14 paroisses canoniques qui sont le substrat demeurent, mais il y a une unité pastorale de fait, parce que moi je n'allais pas faire 4 AP, 4 conseils économiques, 4 conseils paroissiaux, non. C'était l'importance d'avoir une unité de vie chrétienne, de projet pastoral.
Est-ce que vous pouvez nous présenter du point de vue du territoire, de la population, parce que ça fait quand même un vaste ensemble géographique.
300 km carrés, voilà, 15 km sur 20 à peu près. Hein. Alors, c'est 44 000 habitants qui sont sur ce territoire et c'est plutôt une population d'augmentation. Et sur cet ensemble paroissial, donc sur ces 44 000 habitants, il y en a à peu près 17 000 qui sont sur Balma, 6 à 7 000 sur Quinte-Fonce-Grive et 4 000 sur Montrabé. Donc, sur 3 paroisses, vous avez quand même l'essentiel de la population. Et après, le reste est dispersé.
Ce qui fait que vous passez une grande partie de vos journées, alors ça, c'est moi qui le suppose, vous allez me le dire, sur les routes, dans votre voiture ?
Alors j'en passe une... Oui, je me promène, j'aime bien conduire en plus, ça tombe bien. Et j'écoute de la musique en conduisant, donc ça c'est un temps tout à fait précieux et agréable. Mais oui, il faut aller à un endroit ou un autre, rencontrer les communautés ou célébrer. On a pas mal d'offices ou de célébrations, ne serait-ce que des obsèques, qui nous amènent à aller à un endroit ou à un autre. Après, en même temps, nous sommes ici à Balma, et à Balma, il y a quand même près de la moitié de la population et un dynamisme paroissial, donc je suis à peu près tous les jours à Balma, même si je suis à peu près tous les jours dans une autre paroisse.
Oui, parce que les autres paroissiens pourraient se sentir délaissés.
Oui, ils pourraient se sentir délaissés. Je m'efforce d'être présent à l'ensemble du territoire, à l'ensemble des communautés. Parce qu'en fait, une paroisse, et surtout voilà, un territoire pareil, ce sont plusieurs communautés. Et chaque, voilà, à Balma, c'est même une communauté de communautés. Voilà, nos assemblées sont importantes.
Sont diverses,
importantes. Et puis, il y a des personnes qui ont différents enracinements. Voilà. Après, on a d'autres lieux où les communautés sont plus modestes, parfois réellement constituées. Mais petites et d'autres un peu plus larges. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'être présent à ces communautés, de les aider à vivre ce qu'elles ont à être comme communauté chrétienne.
Ah, ben voilà Corinne.
Qui ne connaît pas Corinne ?
Ça va ?
Bonjour Corinne, ça va bien ?
On peut aller.
Quand elle me voit, elle va moins bien.
Hein. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Mais...
Corinne, veux-tu boire quelque chose ?
Allez !
Une paroissienne qui souhaite un engagement total de son curé dans les réalités dans qu'elle porte.
C'est bien.
Elle a raison. Voilà.
C'est vrai que souvent, on ne vous a pas trop vu là. Oui, par exemple, lundi, il y avait personne.
Enfin, le curé,
pour le SEM, la réunion du SEM.
J'avais une autre réunion lundi. Oh. Je sacrais tout le monde lundi pour le calvaire.
Par contre, nous, dimanche, on est allé passer l'après-midi.
Il y a des lieux majeurs, Balma, Fonce-Grive, Trémil, Montrabé, Père Vincent.
Et puis ensuite, il y a des petits noyaux ou des petits restes dans les autres lieux. Et ça pose une question de comment être présent à ces petits lieux. Un village de 2000 habitants, c'est pas un petit village. Hein. Voilà. Et il y a une église. Comment répondre à la besoin de vie chrétienne de ces lieux-là. Donc ça, c'est vraiment une équation à résoudre qui est un peu compliquée.
Oui, parce que vous posez la question avant qu'on commence réellement l'entretien, à savoir si ces regroupements de paroisses étaient une nécessité, faute de prêtres, mais vous m'avez dit aussi, faute de communauté.
Oui, parce que Alors, on hérite d'une difficulté, c'est que pour beaucoup, la vie chrétienne, c'est la messe, et c'est pas faux quand même, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et s'il n'y a pas la messe, il n'y a plus de vie chrétienne. Donc on n'est pas toujours en mesure de célébrer toutes les messes qu'on souhaiterait ou que les gens souhaiteraient. Mais le problème aussi, c'est que la messe, elle doit répondre à une vie de communauté chrétienne. Voilà.
C'est un aboutissement.
C'est un sommet de la vie chrétienne. Et du coup, on a des lieux où la messe... alors oui, elle n'est jamais à la bonne heure ensuite. C'est ça le problème. Mais la messe, les gens du lieu trouvent, ne se présentent pas quand la messe vient, parce qu'elle ne vient pas tous les dimanches. Et celle-là, il y a un petit cercle vicieux dont il faut être conscient. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas la messe tous les dimanches, la communauté se délite. Et parce que la communauté se délite, il n'y a pas la messe tous les dimanches. Voilà. Donc, c'est parfois des choix crucifiants à poser. En arrivant, moi, j'ai souhaité que les messes du dimanche soient fixes. Et donc, on a 5 messes, jusqu'à présent, 5 messes dominicales fixes.
Vous êtes 2 prêtres ?
Alors, on est 2 prêtres, et il y a 2 prêtres plus âgés, avec des limites dans l'exercice du ministère, qui nous secourent. Voilà. Mais on essaie pour le moment d'assurer ces 5 offices. Et ça permet, par exemple à Mont-Rabé, la messe est tous les dimanches. On note depuis quelque temps une augmentation de l'assiduité de la communauté. Donc ça fait partie des choses encourageantes.
Donner des repères.
La messe, le sommet vraiment de notre vie chrétienne. Et pour beaucoup, c'est le seul moment où ils peuvent se retrouver entre chrétiens. Et faire communauté, avoir ce sentiment vraiment d'être vraiment, alors pleinement chrétien, ça appartient à chacun, mais d'être en communauté.
Oui, cependant, la messe, pour qu'elle soit vraiment la messe paroissiale, elle a besoin d'un minimum, j'ai envie de dire, d'un minimum d'effet de masse, parce qu'il y a la question de la préparation de la messe, de l'animation de la messe, du service de la messe, de quelque chose.
D'être nourri
de ce qui précède, de tout, en amont. Et parfois, nos messes ne nous donnent pas autant d'énergie que nous souhaiterions qu'elles en procurent. Parce que, elles sont authentiquement la messe, mais on est un petit reste. Alors, il y a une ferveur dans certains cas. Parfois, ça pose la question aussi de... il faudrait que nos communautés, dans nos villages, il y ait ces embryons de communautés que peuvent être les fraternités missionnaires. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Les fraternités missionnaires, c'est des chrétiens qui se réunissent à domicile pour prier, pour échanger sur la parole de Dieu, qui sont capables d'inviter des gens un peu en dehors du cercle,
se soucier de leurs voisins,
mais de les inviter à venir. Et là, vous avez un embryon porteur de vie et qui peut, qui appelle ensuite la messe. Parfois, on a plutôt des unités qui se regroupent et qui n'ont pas toujours les liens qu'on pourrait souhaiter entre les chrétiens. Et là, il manque quelque chose. Mmh. Donc pour ça que parfois, c'est un petit reste qui se désagrège, et parfois, c'est un embryon. C'est un peu... Mmh. C'est petit, mais ça n'a pas la même valeur.
Ça va, Aline ?
Oui ?
Welcome !
Aline, vous êtes d'où ?
Florence. Je suis de Mons, exactement.
Tu habites à Mons ? Elle y tient.
Parce que vous arrivez là tous de différents lieux. Ce grand ensemble paroissial. Ce regroupement de paroisses, pour vous, c'est une richesse. Il y a des difficultés. Comment vous l'avez vécu ? Parce que ça fait 2 ans, non ? Ça fait un peu plus de 2 ans.
C'était au moment du Covid.
Non, ça s'est regroupé depuis quelques années, progressivement.
Oui, avec Quinte Fonsegrive aussi.
Avec Quinte Fonsegrive, ça a été déjà regroupé il y a 4-5 ans, avec l'arrivée
Mais quand Bruno a pris la retraite... c'était en 2020.
2020, donc
oui,
ça fait 3 ans.
On n'a pas pu fêter comme on voulait leur départ à cause du Covid. Donc on a été rattachés avec Péril de Fonse. Nous, on a fait Bruno, Père Ildefonse, un an, qui est parti, Père Vincent, qui est encore là.
Mais le regroupement des paroisses, ça a du plus et ça a du moins. Ça a du plus parce qu'on fait, communauté, mais ça a du moins au sens que, on l'a dit tout à l'heure, les paroissiens voudraient avoir le curé chez eux, mais le curé, il est tout seul. Donc, je dirais, le moins, c'est que le curé ne peut pas être partout, mais en même temps, ça permet peut-être de dire aux laïcs, ben, allez-y, prenez la main, on peut faire des choses sans le curé. Le curé, c'est le pasteur, celui qui conduit. Mais
à Sainte-Foy, ils voulaient que il y avait la messe un dimanche par mois. Ils auraient souhaité que les autres dimanches, ils puissent faire une célébration sans Eucharistie. Ou...
Ben oui, mais on n'a pas forcément besoin du curé pour faire une célébration sans Eucharistie.
Oui, mais c'est OK, mais pas le dimanche.
Mais c'est ça l'enjeu, quoi. L'Eucharistie, c'est la source, c'est le sommet de la vie chrétienne. Mais au-delà de l'Eucharistie, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et des célébrations de la parole. C'est beau. Un des dadas, si je peux dire, de notre archevêque, et ça c'est très bien, c'est les fraternités missionnaires se retrouvent entre nous pour partager la parole de Dieu et pour, voilà, et analyser qu'est-ce qu'elle me dit, cette parole, pour ma vie de tous les jours. Ben, on peut le faire, les fraternités missionnaires, on n'a pas besoin de la présence du curé. Hein. Voilà, et c'est ça c'est facile à dire, mais il faut que l'on arrive, c'est notre mission à tous de dire au peuple de Dieu, l'Église c'est vous, hein, l'Église c'est vous, c'est pas seulement le curé qui doit tout organiser, qui doit tout faire, chacun à sa façon doit amener sa pierre à la construction. Le curé c'est le pasteur, bien sûr, celui qui rassemble le peuple, promouvoir des rassemblements, là. Quand je reviens sur ces fraternités missionnaires chères à notre archevêque, mais c'est formidable. Un groupe qui se rencontre, qui partage la parole de Dieu et qui relise leur vie à travers la parole de Dieu pour dire à quoi ça m'implique, qu'est-ce que je peux faire dans la vie, c'est ça l'avenir. Et ces fraternités missionnaires, elles se réunissent en l'absence du curé, bien évidemment.
Elles existent? De fait?
Il y en a quelques-unes qui fonctionnent.
Elles se sont constituées après le synode, après les réunions de préparation pour le synode.
Oui.
Pour certains, ça a été l'occasion de se retrouver autour d'une fraternité missionnaire.
Il y a deux choses. Le synode, ça a donné une impulsion, mais il faut que ça se développe au-delà du synode, premièrement. Et puis, il faut qu'on arrive à intégrer des gens qui ne vont pas à la messe tous les dimanches. Quoi. Des gens qui sont, je dirais, croyants, mais qui, pour telle ou telle raison, ne vont pas à la messe le dimanche, mais qui apportent leur contribution. C'est l'occasion de se rassembler.
C'est ce qu'on essaye de faire donc avec le groupe Alpha, si tu veux, voilà. Avec les groupes Alpha, ça s'est constitué sur Palma depuis un mois. Et l'enjeu, c'est quand même effectivement de faire venir des personnes qui ne sont pas forcément dans l'église, qui ne pratiquent pas, mais qui se posent des questions. Voilà. Et donc, il y a des personnes de Fonsegrive, enfin, au niveau des animateurs. Ça se fait sur un lieu qui est à Balma, mais qui regroupe l'ensemble paroissial.
C'est la première année, je pense qu'il y avait une attente, donc il y a plein de gens de la paroisse qui...
Et c'est créer des liens, là aussi.
Oui, parce qu'après, on se retrouve à la sortie, justement. J'ai rencontré quelqu'un qui était au groupe, et du coup, tu discutes.
Ah, et c'est ce qui fait communauté, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, c'est vrai que c'est compliqué de faire une communauté générale de tout un ensemble aussi grand et aussi divers. C'est compliqué. Mais c'est aussi important que sur les lieux, que ce soit à Fonsegrive, à Balma ou à Florence, des choses se mettent en place, même aux sorties des messes, tout ça, parce qu'il faut que les gens qui habitent là ressentent une communauté fraternelle. Voilà. Même si ce n'est pas sur le grand ensemble, parce que... Enfin, je n'y crois pas, moi, à ce qu'on puisse faire quelque chose unifié, on va dire. Parce que c'est tellement divers, on a des...
parcours Alpha, il y a des gens qui
partent. Oui. Mais tu sais, après, je dis sur les paroisses, quand on fait, par exemple, les pots à la sortie de la messe ou autre, c'est des gens voilà, qui sont là.
Et il faut les deux, il faut des rassemblements locaux, sur chaque église, pour faire vivre la communauté proche qui ne veut pas bouger, en fait. Parce qu'il y a toujours ceux qui ne bougeront pas. Et puis après, il faut faire des animations, on met en commun,
en périphérie,
et on arrive à faire un peu bouger les gens, justement, pour qu'ils aient...
Par rapport à ta question initiale, les regroupements, c'est bien, mais il faut en même temps arriver à préserver les spécificités, les identités. C'est ça la difficulté, quoi. Un regroupement, c'est bien, mais tout en respectant les particularités. Parce que...
C'est là que les laïcs sont
Je le redis, cette vie locale autour d'un clocher... Elle repose énormément sur les laïcs, quoi. Que les laïcs prennent en main, s'organisent et tout. Hein. Encore une fois, c'est tout à fait important. Si on attend tout de l'échelon central, on n'avancera pas.
Alors ici, quand même, ce qui se fait sur le plan du secteur entier, c'est justement l'aumônerie sur le secteur paroissial ici. C'est que les jeunes qui sont en catéchèse de la 6e jusque première ou terminale, je ne sais pas s'il y en a cette année, ils se retrouvent tous ensemble. Voilà, tous les 15 jours, je crois.
Hein,
voilà, tous les vendredi.
Tous les 15 jours, un vendredi.
Voilà. Et là, ils viennent de partout.
Oui, donc là, il y a vraiment une mise en commun.
Il y a vraiment une mise en commun de tous les enfants.
Mais bon, on amène tout le monde à Balma.
Mais parce que c'est au Calvel.
Il y a le lieu.
Chef-lieu de canton.
Mais c'est vrai que bon, du coup.
Mais si c'était Fonce Grive, on serait là.
Et ces jeunes, mais on ne les retrouve pas aux dans les églises locales. Moi, j'ai l'impression. Moi, je ne les vois pas.
Ah, mais ici non plus. Ah non, moi je pense que les jeunes, là, ils vont à l'aumônerie, enfin tout ça. Mais après, enfin, ça, c'est comme ça a toujours été. On ne les voit pas à la messe.
Non. Ce que disait Aline est important, c'est arriver à trouver d'autres lieux que la messe. Et Aline, précisément, est en train de travailler sur un projet, faire des soirées de louange. Des soirées de louange, voilà. Elle va nous exposer ça ce soir, là.
Je ne sais pas si ça va être un grand exposé.
Mais non, mais c'est important de trouver des lieux où les gens se sentent bien et pas forcément que la messe. C'est
Le Calvel est un de ces lieux où l'on se sent bien, où l'on se retrouve, les jeunes notamment, et plus particulièrement ce mercredi après-midi, les plus petits. Le mercredi, c'est jour de patronage.
Philémon, puis Hippolyte. Alors, moi, je viens souvent pendant les vacances, quelques fois le mercredi, pas souvent, et moi, je viens tous les mercredis depuis le début de l'année, et je viens aussi un peu pendant les vacances.
Si tu viens tous les mercredis, c'est que ça te plaît, c'est que tu es bien ici.
Oui.
Oui. Comment ça se passe le mercredi?
On arrive, on va à l'oratoire, on va prier. On a, comme c'est le patronage Saint-Joseph, on fait la prière « Je vous salue Joseph ». Après, on fait le mot du jour. On vient ici, on fait le mot du jour. Et après, on va faire un jeu dehors, ou plusieurs, ou temps libre. Et après, on vient goûter. Et après, on fait temps libre, souvent, après, de côté.
Et c'est ici, tu retrouves des amis?
Oui, c'est presque tout le temps les mêmes.
Où tu t'es fait des amis? Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis ici au patronage?
Oui. Pour après, on les connaît presque tous.
Vous connaissez tous? C'est comme une petite famille ici.
Oui, on les connaît presque tous parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup d'activités à côté. Mais le patronage, ce qui me plaît dans le patronage, c'est... C'est retrouver ses amis, jouer et surtout être ensemble.
Être ensemble, partager des moments de vie.
Oui, voilà.
Ouais. Est-ce que vous chantez aussi?
Oui, dans l'oratoire, on chante Réjouis-toi, Marie. Et ce que j'adore au patronage, c'est que le Père Marc, il est très gentil et on a des animateurs très gentils qui nous font plein d'activités superbes.
Merci Léopold.
Alors moi c'est Vianney.
Donc vous êtes lycéen?
Oui.
Et vous venez tous les mercredis ici?
Oui.
Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez choisi alors de répondre à un appel, une invitation, peut-être de vous-même, pour venir vous occuper des plus jeunes les mercredis après-midi?
Au début c'était un projet du Père Aymar qui m'a en quelque sorte appelé à venir l'aider pour animer. Et du coup, je suis venu pour aider, pour lui filer un coup de main. Et depuis, j'aime bien ça, j'aime beaucoup animer, etc. Donc, et surtout dans cet esprit-là et tout, sympa.
Et dans la régularité, parce qu'il faut être là quand même tous les mercredis, les vacances aussi, les petites vacances ou...
Oui, la première semaine de chaque vacances.
Ça prend du temps?
Oui, ça prend du temps.
Ça prend du temps, c'est donner de son temps.
Oui, c'est ça, je donne de mon temps et, pour animer.
Vous donnez et vous recevez, je suppose?
Oui. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici.
Et vous avez une formation?
J'ai passé le BAFA en décembre, là.
Ouais.
Enfin la première partie. Et du coup, là, je dois faire mon stage pratique et la troisième partie. Et puis voilà. Et après, j'aurai le BAFA.
Florian. Oui, c'est ça. Appel du Père Aymar qui nous a demandé de venir pour aider à gérer tout ça. Et voilà, moi je viens moins souvent que Véné quand même. Je viens quand j'ai le temps, de temps en temps. En général, c'est une fois par mois à peu près. Et toutes les vacances. Et voilà. Et puis ça me fait plaisir d'aider aussi. Ils sont sympas. Et voilà, ils sont tout mignons à passer le balai.
Ah oui, mais ce sont des enfants modèles. Hein.
Bah, il faut bien. Sinon, ce serait compliqué.
Est-ce que c'est un moment familial? Je vois, vous venez de partager un gâteau, c'est le goûter. Après, les jeunes, tout naturellement, ont pris des balais, peut-être une éponge pour nettoyer.
Ça arrive pas tout le temps, ça, mais...
Non, mais... plus rapidement qu'à la maison, je crois.
Voilà, je pense que...
Les mamans doivent être jalouses, alors.
Possiblement, ouais.
Oui, je suis Nathalie.
Et avec le père Aymar, responsable du patronage.
Ouais, je ne suis pas responsable, je donne...
Vous l'aidez?
Voilà, on va l'aider, voilà. Vous voulez que je vous fasse visiter?
On va commencer, ouais.
Alors, il y a l'oratoire. Ici, c'était des bâtiments qui, auparavant, hébergeaient un autre centre aéré du Clavel. Donc, c'est là où on prie.
D'accord, vous avez mis un tapis.
Oui.
Au sol pour que les enfants puissent s'asseoir prier, et s'agenouiller.
Voilà. Et aujourd'hui, ils sont en train de vernir les petits prie-dieu qu'on leur a donné. C'est la petite prière du patronage.
Ah. Ouais, une prière à Saint-Joseph.
Voilà, c'est ça. Donc, ils la lisent. Et puis, ils disent aussi les intentions qu'ils veulent. Ensuite, là, notre travail d'aujourd'hui... Ça a été de vernir ces prie-dieux. Et voici le logo du patronage. Donc là, la bordure verte, ça symbolise l'espace du clavel. Ensuite, la croix occitane. Et voilà, donc ça a été leur travail aujourd'hui.
Ça, c'est la salle de lecture.
Là, au bout, il y a une infirmerie. Ici, ça va être fermé. Ça, il y aura une grande cuisine ici parce que l'objectif, c'est après de faire les repas des gamins quand ils seront accueillis à la journée.
C'est le patronage de la paroisse?
Oui, alors c'est Père Aymar vous l'expliquerez un peu mieux, c'est spécial. Ici, on est multi-clocher, je ne sais pas comment on peut dire. Mmh. Bon. Moi, j'habite Pimbalma. Pimbalma, c'est à côté. Mmh. Il y a certains jeunes qui viennent de Montrabe. Il vous le dira, mais pas forcément de Balma. Mmh. Voilà.
Ah ben voilà le Père Aymar. Père Aymar, je viens de vous retrouver ici, c'est un mercredi après-midi du mois de février. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de ce patronage? Pourquoi ce patronage? Pour moi, ce terme avait un côté un peu vieillot, un peu désuet.
Les choses sont très simples. L'année dernière, à peu près la même période, on a récupéré les locaux de la mairie, les locaux du centre de loisirs municipal. Parce que le terrain nous appartenait, mais la mairie en avait l'utilisation depuis une trentaine d'années et a décidé de rompre le contrat. Et donc, la paroisse, en septembre dernier, a été propriétaire du foncier et des locaux. Et donc, au moment où on a eu 6 mois pour se retourner, mon curé m'a dit « Il faut que investir les locaux et donc tu vas créer un patronage ». Je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire. Moi, je ne suis pas d'une génération qui a connu les patronages. Mais je suis issu du scoutisme et j'ai passé mon BAFA, BFD, donc j'avais une notion de ce que c'était. Et donc je me suis formé pour ça. Et en fait, les patronages sont à l'origine de toutes les œuvres de jeunesse qui existent aujourd'hui dans le monde. Ils ont été pensés par Philippe Neri au XVIe siècle en Italie, qui a fondé un oratoire et qui a commencé à s'occuper de la jeunesse. Et ensuite, ils ont été démocratisés par l'abbé Lallemand à Marseille et un autre abbé à Paris, je ne sais plus qui c'est, qui ont pris cette pédagogie-là et qui l'ont étendue au XIXe siècle, au moment de la crise industrielle. Et Don Bosco l'a popularisée en s'inspirant de Marseille, l'a popularisée à Turin et l'a écrite sur de nombreux papiers en mettant un peu au centre la figure du prêtre, le fait d'accueillir les enfants comme ils sont, de leur proposer à l'époque un métier, une formation pour qu'ils puissent en sortir. Bref, de considérer l'enfant dans son ensemble, dans un cercle le plus sécuritaire possible et où il puisse déployer tous les talents que le Seigneur lui a donnés.
Vous êtes remonté à Philippe Néry. Mais aujourd'hui un patronage? Pourquoi une résurgence du patronage? Est-ce qu'il a pris une autre identité, une autre forme? Est-ce qu'il répondait à un besoin autre? Parce que c'est vrai qu'il y a une multitude de propositions pour les jeunes. Le patronage, dans toutes ces propositions?
Alors, il y a un constat qui est clair, c'est qu'en 2022, il y a eu autant de patronages ouverts que les 10 années précédentes. Donc, ça montre bien qu'il y a, il y a un attrait pour le patronage aujourd'hui qui répond à un besoin très simple. C'est que les centres de loisirs, le métier de l'animation, n'attirent plus. Et donc, les centres de loisirs ont largement perdu en qualité ces dernières années. Alors, sauf exception, mais globalement, les animateurs sont moins impliqués parce que c'est un peu la roue de secours, être animateur. Et on est animateur 2-3 ans, il n'y a pas un processus de long terme. On apprécie l'enfant, on apprend à la connaître, à se former. Et donc, ça dénature le centre de loisirs parce que les parents ont un besoin de garderie. En travaillant tous les deux, ils ont besoin qu'on garde leurs enfants pendant les vacances et à la sortie de l'école. Et l'Église a mis un peu de temps à le comprendre. Et les patronages sont les mêmes qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, 150 ans. On répond à ce besoin de garderie. Et on le fait dans un cadre chrétien, avec la figure du prêtre central, avec un projet pédagogique clair, catholique, mais en laissant la possibilité de participer au temps de prière ou pas. Mais on répond à ce besoin de garderie des parents qui s'est fait notamment ressentir pendant le Covid où les parents étaient en télétravail, avaient besoin qu'on garde leurs enfants, et en même temps à un affaissement des centres de loisirs au niveau de la qualité, les parents en sont de moins en moins satisfaits, et à un besoin de l'Église qui est on n'a plus d'enfants en caté, ça diminue chaque année, et donc comment retrouver cette jeunesse dans nos œuvres à nous?
Il y a quelque chose du faire. Alors tout à l'heure avec Nathalie, on a fait le tour des bâtiments. Elle m'a montré ce que les enfants, les jeunes avaient fait aujourd'hui. Je crois que ce sont des petits prie-dieux qu'ils ont peints. Mais en vous écoutant et puis en les voyant, là, on est à l'intérieur parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. On les voit par la fenêtre. J'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose, une dimension. Il y a faire, mais vivre surtout ensemble.
Dans Moscou, il y avait une citation, si je la retrouve, c'est « faire jouer ». Laisser jouer et donner à jouer. Voilà, c'est pas être présent pour être présent, c'est pas systématiquement être dans le jeu, mais c'est faire jouer, laisser jouer et donner à jouer. Et c'est le rôle des animateurs. Et le patronage, il y a une grande partie de temps libre, que je n'ai pas prévu dans le programme de l'après-midi, mais qui sont à l'initiative des enfants, à condition qu'ils soient accompagnés et que les enfants ne restent pas seuls. Les enfants restent seuls dans la cour de récréation parce que les pions ne sont pas là pour s'occuper d'eux. Mmh. Mais nous, on est plus qu'une cour de récréation, plus qu'un centre de loisirs. Donc si un enfant désire être un peu à l'écart et faire un jeu de société alors que les autres font du foot, on l'accompagnera avec un animateur pour faire un jeu de société et passer un moment de qualité avec l'enfant.
Avec une grande dimension spirituelle aussi.
Ben, disons que les valeurs chrétiennes, en tout cas l'anthropologie chrétienne, est largement présente dans le patronage sans être explicite. Ça m'arrive de parler des temps forts liturgiques au moment du mot du jour, au tout début de l'après-midi, mais aujourd'hui, on a plutôt parlé de bien faire les choses. On avait une activité manuelle assez importante, et donc c'était bien faire les choses, les faire entièrement, prendre soin du matériel. Voilà, il n'y a rien de explicitement chrétien, mais tout est issu du christianisme quand on parle de ça.
Ce qui fait que vous accueillez tous les enfants, quels qu'ils soient?
On accueille tout le monde ici, et c'est l'objectif des patronages, d'accueillir tous les enfants qui se présentent et dont les parents ont un besoin de garderie. Et voilà, il n'y a pas de patronage spécifiquement pour les enfants catholiques. On est ouvert à tous.
Il me semble, d'après ce que vous dites, ce que je vois avec les jeunes là, qui viennent de rentrer pour le goûter, c'est peut-être comme un catéchisme, un acte peut-être.
Exactement, c'est une école de vie. Ouais. C'est une école de vie qui se veut la plus familiale possible. Voilà, il n'y a pas de séance pure de catéchisme. Et actuellement, les enfants qui y sont vont au catéchisme ou y ont été. Mais le jour où on arrivera à s'ouvrir un peu plus largement et on aura des enfants qui ne viennent pas au catéchisme, eh bien qu'ils puissent vivre cette école, même s'ils n'ont pas les fondements de la foi. Et autour des principes chrétiens et de tous les petits mots du jour que le prêtre ou le directeur pourra faire. Mais de fait, c'est le catéchisme en acte, mais on n'est pas obligé de faire du catéchisme pour venir au patronage.
En d'autres termes, vivre de l'Évangile et l'annoncer à temps et à contre-temps, Père Vincent.
voilà, il faut vivre l'évangile, il faut l'annoncer, il faut le partager. Mais c'est vrai qu'on a besoin, on ne peut pas vivre seul l'évangile, et on a besoin d'être enraciné, d'être relié en tout cas à une communauté, à une communauté, à une célébration, à une voilà, à l'église tout simplement, parce que c'est ça, c'est la ligne de vie, c'est mon lien à l'église, hein, voilà. Voilà, on est sur la fin d'un héritage d'un christianisme établi de masse, et comment on dit, c'est la queue de la comète, hein, maintenant, donc c'est un peu la fin de la fin. Donc il y a vraiment la nécessité, non pas de maintenir le visage d'une église qui passe, mais d'aller, voilà, de susciter vraiment des communautés chrétiennes en recommençant quasiment à zéro. Hein. Il faut relire saint Paul et voilà, annoncer l'évangile et proposer à ceux qui veulent vivre quelque chose de se retrouver, d'échanger. On n'a pas besoin du curé pour ça. Et pour prier ensemble.
Pour les sacrements.
On a besoin pour les sacrements, tout à fait. Mais voilà, souvent, une des difficultés que l'on rencontre, c'est moins pour les messes, mais pour un certain nombre de sacrements, c'est parfois un consumérisme religieux qui n'est pas très heureux, pour le moins.
Vous me dites la fin de la queue de la comète, globalement, enfin, sur ce grand ensemble paroissial, hein, la population qui participe à cette vie communautaire.
Globalement, sur la population, ça fait un dixième ?
Oh, c'est pas un dixième. Non, hein, sur les 44 000 habitants, c'est pas un dixième. Non, 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 désolé, non. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, je pense même, que... j'ai pas fait le compte. Mais si on a 2000 pratiquants sur l'ensemble, c'est le maximum. Hein, ça fait même pas 5%, voyez-vous. Ah ben, c'est une pauvre église. Hein, vous croyez qu'on n'est pas... Il est fini le temps de l'église des grands nombres. Hein, enfin, en tout cas... ce qu'il y a, il y a des chrétiens quand même. Hein, même si il faut, enfin, faut pas trop regarder ce qu'on n'a pas. Il me semble qu'il faut regarder ce que l'on a. Et moi, je vois que le travail pastoral ici nous donne quelques satisfactions parce que on sent d'abord un dynamisme. On sent, voilà, enfin, à Palma, il y a vraiment un dynamisme. Mais dans les principaux lieux que j'ai notés, il y a quelque chose à des intensités diverses. Mais il y a quand même quelque chose qui répond. D'abord, il y a ça. Il y a des chrétiens qui sont dans un désir de vie chrétienne authentique et qui aiment l'Église, qui sont préoccupés par l'Église et qui aiment l'Église. Alors, il n'y a pas de souci. On a des communautés qui veulent aussi approfondir et partager ce qu'elles vivent. Voilà, là, je suis content parce qu'on a, avec les frères Carmes, on a lancé une école d'oraison sur une des paroisses. Enfin, c'est pour l'ensemble paroissial, mais enfin, ça se passe à Fonsegrive.
Géographiquement, il faut mieux que ça
se passe. Et ce soit quelque part. Et il y a une trentaine de personnes qui suivent et qui, voilà, cette formation spirituelle. Et je crois que c'est très important que les chrétiens de tous les dimanches progressent dans leur vie spirituelle, progressent dans leur vie de foi. Hein, et apprendre à mieux prier, on a toujours besoin, on n'a jamais fini, hein, et ça va commencer par les curés. Mais apprendre toujours à mieux prier, mieux se consacrer dans la prière, avoir un cœur plus disponible au Seigneur, tout ça, c'est très important. Il faut que nos communautés se saisissent de ces projets, de ces propositions. Et puis l'autre proposition là, qui est en œuvre actuellement et qui nous donne une grande satisfaction, c'est le début, mais on a lancé un parcours alpha et qui, justement, permet d'inviter au-delà du cercle. Alors, parce qu'un des péchés, quand même, de nos paroisses, c'est de faire fonctionner la boutique. Voilà. On reste entre nous et on fait tout fonctionner entre nous pour que ça marche. Alors, plutôt bien ou pas bien, ça dépend. Mais voilà. Mais la question, c'est d'ouvrir et d'inviter, d'élargir. Et voilà, ça c'est un des axes du projet pastoral, enfin, que je souhaite vivre ici, c'est avoir une culture de l'invitation. Pas simplement une culture de l'accueil, c'est déjà très bien, mais une culture de l'invitation. Venez, nous avons un trésor à vous partager. J'ai une bonne nouvelle, hein. Notre Seigneur est ressuscité. Voilà. Et ça change la vie. En tout cas la mienne, même si ce n'est pas brillant, mais ça change la vie.
Non, non, vous allez garer la voiture.
Colette, oui. Le jeudi, j'espère qu'on vous reverra.
Oui, madame. Et là, je ne suis pas venue deux fois parce que j'avais quelque chose. Voilà. Mais je reviendrai, je reviendrai.
C'est l'équipe d'accueil, le dimanche
oui,
matin.
Oui, 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 tout à fait. Et je crois que ça compte. Enfin, les livres, on n'est pas toujours satisfait à la fin d'en avoir placé beaucoup. Non. Mais par contre, l'accueil, je crois que ça compte beaucoup aussi. Il y a quelqu'un à qui dire bonjour en arrivant. Je crois que ça en fait partie.
Oui. Se sentir attendu.
Oui, oui, puis surtout aussi pour les. Il y a ceux qu'on connaît, mais il y a aussi tous les noms. Ouais.
Bonjour, ça pique. Hein.
Oui, il fait froid. Ouais.
Bonjour. Accueil, invitation, ouverture à l'autre. Cette fois, nous sommes à Foncegrive, un dimanche matin. Les fidèles se pressent et sous le porche, Claudine et Marie-Thérèse les accueillent et les invitent à découvrir des livres, des magazines. Il y en a pour tous, adultes, adolescents et enfants. Sur une table, elles ont disposé une sélection d'ouvrages. Chaque dimanche matin, avant ou après la messe, les paroissiens peuvent ainsi emprunter des livres divers, sélectionnés en fonction du temps liturgique, de l'actualité ou de coup de cœur. Des ouvrages choisis et proposés par l'équipe du Centre de culture religieuse de la paroisse. À Foncegrive, une institution qui, depuis plus de 40 ans, fait partie de l'histoire.
Ça va aller. Voilà, mais et c'est ici qui, c'est ce qui a été créé en 1979 par le père Macrabert et puis Françoise de Fehrenbach.
Françoise croyait beaucoup à la transmission par la lecture,
par la
culture, par la lecture, puisqu'elle a participé à la médiathèque aussi. Donc c'était vraiment amener la culture, la lecture.
C'est un outil pour transmettre la. Oui. Fois. Alors, ben, c'est un fonds documentaire. Il y a 3000 ouvrages ici, quand même. Il doit y en avoir un peu plus. Il y a des ouvrages, il y a des bibles, il y a des.
Tout ce qui concerne spiritualité.
Des bibliographies de saints ou d'évêques ou de papes. Mm-hmm. Voilà.
C'est ça. Et puis les textes écrits par les encycliques, tout un tas de textes qu'on ne trouverait sûrement pas. De soi-même.
Puis je vois, il y a des livres aussi pour les jeunes.
C'est un outil pour les catéchistes. Et puis il y a des livres de réflexion sur l'évolution de la chrétienté, de l'Église, et ça c'est très enrichissant. Hein.
Aussi, il y a finalement, par exemple, Rachel, il y a des personnes qui ne prendraient pas de livres, mais un peu par la rencontre, on les amène à en prendre un, et puis des fois, ça recommence. Voilà. Et pour les enfants aussi, on a vu quand même peu à peu les enfants, les familles choisir.
Ah oui, nous avons nos habitués. Oui. Et une petite, ce matin, qui en a rendu deux, elle en a repris deux. Oui.
Donc c'est des grands-parents, des grands-mères, souvent, qui prennent parce que c'est les vacances, donc elles vont avoir leur petite fille. Par exemple, je pense à Janine, et elle prend pour sa petite fille.
La mise à jour du fonds documentaire est faite chaque année, mais cette année, on va essayer de distribuer un questionnaire à l'Église, pour voir quelles sont les attentes des fidèles et voir s'ils sont intéressés ou pas. Parce qu'il y en a qui passent et qui nous regardent à peine. Hein, donc, mais peut-être ne savent-ils pas ce qu'il y a. Et voilà. Parce que moi, la première, je ne m'y intéressais pas beaucoup au départ. Hein, mais depuis que j'y suis rentrée, je découvre des trésors. J'avoue que c'est vrai.
Oui, et puis... Elisabeth, qui s'en occupe plus particulièrement, fait l'effort chaque année de suivre les nouvelles parutions et de voir quel livre pourrait enrichir notre fonds et être proposé.
Parce qu'il faut savoir que nous avons une allocation de la, de la paroisse, une allocation annuelle, et avec ça, nous achetons de nouveaux livres. Et ensuite, il y a un compte rendu qui est fait, nous rendons des comptes quand même. Voilà,
c'est bien normal. Sûr.
À peu près 10-12 livres, ça doit faire à peu près qu'on achète. Près, et puis il y a des dons. Voilà. Donc il y a des nouveautés. Et quand on a fait la... Enfin, moi, je n'ai pas participé tout le temps, la remise en ordre du fonds, c'était des demi-journées fabuleuses. On se serait cru, comment on s'appelle, à la télé, là, l'émission sur... on me manque, sur les livres, la grande bibliothèque.
Oui.
C'était à peu près ça, parce que pour chacun, il dit, ah oui, celui-là, en effet, je me rappelle.
Celui-là, il est dépassé, on peut se séparer.
Oui. Mais celui-là, oui, c'est, même s'il est ancien, c'est vraiment toujours adapté.
Vrai.
Ah, c'était fabuleux, ces demi-journées.
Oui, parce que c'est là où on s'aperçoit que l'Église a évolué, la liturgie a évolué, voilà, et donc il y a des choses, des livres qui sont dépassés.
Et d'autres qui, même anciens, sont tout à fait dans la, comment dire, dans l'air du temps, on pourrait dire, dans la recherche actuelle.
Le dernier que je viens de lire, c'est La fin de la chrétienté, mais bon, très intéressant. On a pas mal de livres sur la place des femmes dans l'Église aussi. Qui est un thème de réflexion qui nous a toutes passionnées d'ailleurs.
D'ailleurs, vous êtes une avec des femmes. Il y a Jean-Marie Ferrenda.
Jean-Marie qui vient nous voir.
Si le rassemblement des paroissiens ne s'est pas fait sans quelques tiraillements, c'est ce que j'entendrai ce matin-là à Francegrive, le désir de faire œuvre commune l'a rapidement emporté. Un désir d'inventer des communautés chrétiennes, accueillantes, invitantes et attirantes, la règle de trois du Père Vincent.
Dans la dimension missionnaire, c'est très important. Il faut qu'il y ait vraiment une fraternité chrétienne. Alors, il s'agit simplement dans nos assemblées, alors c'est très important, je suis le premier à le dire, qu'il faut nous recueillir devant le mystère que nous allons célébrer. Mais nous ne célébrons pas ce mystère dans un isolement fraternel. Nous le célébrons justement avec des frères. Il est important que l'assemblée soit une fraternité. Alors, ces assemblées doivent... les gens doivent se connaître tout simplement, doivent s'accueillir, se saluer.
Il y a l'avant-messe et l'après-messe.
Il y a l'avant-messe et l'après-messe.
C'est important aussi.
Et c'est très important. C'est très important. Et ça transforme la célébration. Moi, je le vois d'une façon très nette. Un dimanche, pas loin de la rentrée, j'avais invité après le chant d'entrée, j'avais invité l'assemblée à se tourner vers son voisin et à se présenter, à dire, voilà, alors certains se connaissaient, mais d'autres ne se connaissaient pas. Donc on a pris 10 minutes pour se présenter, pour dire pourquoi on venait à la messe. Et puis nous avons repris le chant d'entrée, et c'était complètement différent. Complètement différent. Il y avait une intensité qu'il n'y avait pas eu précédemment. Donc ça, c'est très important. C'est pas des numéros qui sont à la messe, ce sont des frères. C'est la première chose. Et du coup, vraiment, il nous faut travailler cette familiarité, cette proximité les uns avec les autres. Et ça aide justement à relier les personnes les unes avec les autres. Et on va plus facilement à la messe si on y connaît les d'autres. Voilà. Moi, je trouve que c'est un contre-témoignage que une personne vient à la messe ne connaissant personne et ne rencontrant personne. Donc ça, c'est très important. Il faut que nos communautés soient vraiment, du point de vue du lien fraternel, qui est un minimum. Donc on travaille à ça. Alors, dans les divers lieux, on travaille à ce que chaque lieu ait sa consistance. Mais il faut aussi que l'ensemble paroissial et ses moments, ou en tout cas son moment. Donc on travaille à une messe de rentrée qui permet de nous réunir.
De fédérer, voilà.
Mais il y a l'illusion, il n'y aura pas, entre guillemets, une paroisse au singulier, porte du Lauragais. Pour le moment, en tout cas, je ne le souhaite pas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de paroisse. Non, mais il y a le christianisme n'est pas autre, ne peut pas être autre chose que communautaire. Donc là, il faut vraiment travailler à ce que nos assemblées soient vraiment des fraternités, des communautés fraternelles, et cultiver dans les lotissements, dans les quartiers, dans les villages, des fraternités qui seront des signes.
L'Église encore va durer longtemps.
Dieu soit loué, béni soit son Saint-Nom. Ce qui est certain, c'est que les formes qu'a eues l'Église...
L'Évangile
est éternel. Hein. Mais si vous voulez, les formes qu'a connues l'Église passent. Mais l'Évangile, c'est quand même la bonne nouvelle. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à nouvel ordre pour vraiment réjouir le cœur de l'homme. Il n'y a que ça.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.